doivent raconter l'histoire du courage, ou plutôt l'histoire d'une femme. Une femme qui filme avec pudeur le courage des autres. Le courage de femmes violées dans les prisons syriennes qui osent prendre la parole et raconter, au risque de leur répudiation, au risque de leur vie parfois, le viol massif comme arme de guerre. Le courage d'un grand-père tchétchène à qui les Russes ont arraché ses filles et qui s'occupe de son petit-fils, qui lui promet à son petit-fils qu'on ne touchera pas à un de ses cheveux tant que lui sera vivant. Bien sûr, et heureusement, elle ne filme pas seulement le courage. Quand le grand-père tchétchène, peu de temps après, se met à pleurer et que sa femme lui dit qu'il faut être courageux, c'est sa dignité qu'elle filme. Sa dignité, et peut-être même, je crois, sa beauté. Le vrai courage est de n'être pas obsédé par le courage, de montrer que tout le monde mérite le respect, mérite surtout, vivant ou mort, lâche ou courageux, de n'être pas oublié. Il y a pire que la mort, l'oubli, disaient les Grecs anciens. Elle, elle filme pour que l'on n'oublie pas, pour laisser des traces, faire entendre des voix qu'on oblige au silence. Elle filme ces mères tchétchènes qui se battent pour que l'on n'oublie pas que leur fils disparu, ces charniers sur lesquels les herbes hautes et même les fleurs ont maintenant repoussé. Est-ce qu'il lui faut du courage à elle pour quitter les siens, prendre sa caméra, rejoindre les zones de guerre ou de dévastation ? Comment en serait-il autrement ? Le courage, écrit Yankelevitch, est la vertu des commencements, la vertu qui rend toutes les autres possibles. Il lui faut trouver le courage de partir, celui parfois aussi de ne pas partir, d'écouter son intuition et de renoncer quand le danger est trop grand. Preuve, s'il en est, que le courage n'est pas témérité, mais bien vertu mesurée, à adapter aux circonstances, à réinventer sans cesse. Pour en parler ce matin, du courage et de son essence, du courage et du sens des circonstances, j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice et journaliste multiprimée Manon Loiseau, auteure de très nombreux films, parmi lesquels « La malédiction de naître fille »,« Tchétchénie, une guerre sans trace » ou « Syrie, le cri étouffé », parmi plein d'autres. Manon Loiseau, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, pour nous aider à cheminer sur les bords d'une belle mais difficile question, qu'est-ce que le courage ?
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
Manon Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là parmi
Merci
nous.
Merci à vous.
Alors voilà, vous avez 4 heures. Qu'est-ce que le courage ?
4 heures.
Ouais.
Alors moi j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui est « Le courage ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de triompher de cette peur ». C'est une phrase qui bon, me parle à moi, mais que j'ai vue souvent affichée dans des bureaux d'ONG qui résistait pour non seulement contre les exactions, mais aussi contre l'oubli. Ouais. Et chez toutes les personnes que j'ai croisées pendant, on va dire, près de 20 ans maintenant, ces mots-là résonnent.
Triompher de la peur, j'ai envie de dire, c'est beaucoup. Déjà, peut-être c'est courageux de faire avec sa peur, d'y aller avec sa peur, au fond. Non pas de la terrasser, ni de n'avoir pas de peur. Mais peut-être juste de faire avec, quoi.
On fait avec la peur. Les gens qui vivent dans ces pays-là, dans ces pays fermés, dans ces dictatures ou dans ces régimes autoritaires, vivent au quotidien avec leur peur. Après, avec cette... Soit ils s'enferment, soit enfermés, ils se redressent.
Ouais.
Et je crois que ça, c'est... je connaissais très bien Anna Politkovskaya, qui était cette grande journaliste qui a été assassinée.
Oui.
Et Anna témoignait tout le temps de ces femmes, de ces hommes courageux, et elle-même était incroyablement courageuse, mais elle vivait avec la peur, elle avait accepté de la dompter, de tenter de la dompter. Mais, et parfois, la peur est quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est pas... la peur est là, effectivement, on n'en triomphe pas, on vit avec et on la surmonte.
Quand vous dites aussi la peur est quelque chose d'important, c'est parce que parfois elle est un signe d'intelligence aussi.
Elle permet de survivre aussi. L'essentiel est sans doute de pas se laisser terrasser par cette peur. Après, c'est facile à dire, si on a par moment pas cette peur, on peut se retrouver très très vite en danger.
Oui, alors ça peut être par exemple la lâcheté évidemment, mais ça peut être aussi l'extrême inverse, la témérité.
Mm-hmm.
C'est Aristote qui distingue comme ça la lâcheté de la témérité, en montrant que la témérité c'est une absence de peur totale, soit la tête brûlée qui aime le risque pour se sentir pleinement vivant jusque à la frontière de la mort, soit juste quelqu'un d'irresponsable en fait, d'inconscient.
Moi, je pense qu'il faut garder quelque part la notion de peur. C'est-à-dire que, en tout cas, alors là, je parle d'une manière personnelle. C'est que j'ai souvent, on a peur quand on part, surtout dans des endroits compliqués, dans des conflits, dans des zones qui peuvent être dangereuses. Mais quand on a trop peur, on part pas.
Ouais.
Et ça m'est arrivé. Il y a des signes, faut toujours écouter sa petite voix. Alors, je pense.
C'était quand, par exemple, c'était au moment de partir où?
C'était au moment de partir en Tchétchénie. Ouais. Pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, il y avait plusieurs personnes qui devaient m'aider sur place, qui ont commencé à ne plus me donner de nouvelles, ouais, à disparaître.
Comment on appelle ces personnes?
Des passeurs.
Ouais.
Des passeurs qui souvent nous ont permis, et moi, m'ont permis de rester en vie, que ce soit en Syrie ou en Tchétchénie. Et sans eux, on ne serait pas grand-chose dans ces endroits-là.
Oui, donc c'est sûr que s'ils ne répondent plus au téléphone, on
voilà,
peut
et puis il y a aussi des signes, enfin, c'est vraiment, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est parfois des cauchemars, ouais, une appréhension qui devient trop importante par rapport à l'endroit où on va aller. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas en partir, on en part à un moment donné, mais une fois qu'on y va, on y va.
Vous avez réussi à chaque fois à écouter votre intuition?
Oui.
Et là, dans ce cas présent, je crois que vous n'aviez pas encore d'enfant. Lors de la deuxième guerre en Tchétchénie. Parce que j'imagine que depuis que vous en avez, la question est encore un peu différente.
Ça change la donne, bien sûr, parce qu'on n'est pas responsable que de soi. Moi j'ai un petit garçon et je pense forcément à lui quand je pars. Je partirai plus aujourd'hui en Syrie. En Tchétchénie, de toute façon, je ne peux plus.
Ouais.
voilà. Donc maintenant, le dernier film que j'avais fait sur la Syrie, c'est autour du viol comme arme de guerre. J'avais été rencontrer des femmes aux frontières, donc en Turquie, en Jordanie. Donc voilà, on part différemment. Forcément, les régimes syriens, iraniens et russes ont des services secrets assez puissants et qui utilisent les mêmes méthodes. Et donc, il y a des situations très compliquées dans lesquelles je me suis trouvée et dans lesquelles je ne veux plus me retrouver aujourd'hui. Ouais. Maintenant, je suis maman.
Le film que vous évoquez donc, s'appelle Le cri étouffé en 2017. Il est très beau. On parlera d'ailleurs après de cette question de l'esthétique au cœur d'un film qui capte aussi l'horreur. Je vous propose qu'on écoute un extrait de ce très beau film, Syrie, Le cri étouffé de Manon Loiseau.
Tu sais quoi? Nous, on se fait filmer et on sait que les gens qui vont regarder le film, ils vont partir. Ils seront un peu troublés, puis vite, ils vont nous oublier. Souvenez-vous alors de ce que je dis. Ils vont regarder le film, se lever et continuer leur chemin.
Alors merci beaucoup Manon Loiseau d'avoir doublé cette voix de votre film Le cri étouffé.
C'est une chanson qui me transperce encore.
Alors j'ai fait exprès de laisser la chanson pour plein de raisons. D'abord parce qu'on voit que vous n'hésitez pas à faire quand même un film, c'est-à-dire une œuvre d'art. C'est important, je crois, de le dire, même si peut-être c'est un problème, je sais pas, pour la documentariste que vous êtes, on peut en parler. Et puis surtout, on est en plein dans notre sujet, puisque ces femmes qui s'expriment, elles risquent gros. Elles le font quand même, pour certaines plutôt masquées, dans l'ombre, pour d'autres à visage découvert. Et vous êtes là, avec, en quelque sorte, votre courage à vous, en train de filmer leur courage.
Alors, je pense que le courage, ce sont telles qu'ils l'ont. Et il leur a fallu un courage immense pour briser un tabou total dans la société syrienne. et qui était le crime parfait du régime, à savoir le viol comme arme de guerre en Syrie, et le viol dont elles avaient été victimes dans les prisons du régime de Bachar al-Assad. Le régime sait que quand une femme a été victime de viol, quand elle ressort, elle est répudiée par sa famille, par son mari. Toutes celles qu'on a rencontrées sont des mamans, elles ont 4-5 enfants, elles ont été mises à la porte du jour au lendemain par leur mère, leur frère, leur mari. Et elles ont parlé parce qu'elles se sentent, comme elles ont dit, on est déjà mortes. Ce sont des femmes qui ont fait plusieurs tentatives de suicide, qui disent que finalement, la seule chose qui les fait encore tenir, ce sont leurs enfants. Et au moment où on les a rencontrées avec Annick Cogent du Monde, je crois qu'on est arrivé à un moment où en fait les Russes aider le régime à reprendre Alep, et elles se sont dit, elles n'avaient jamais voulu parler, elles se sont dit, si on ne brise pas ce silence aujourd'hui, qu'on ne parle pas de cette douleur terrible, de cette destruction totale de l'être dont elles ont été victimes, on ne parlera jamais. Elles ont eu un courage inouï, et on se sent très petit par rapport à ça. Enfin, je crois que nous, en fait, c'était... On recueillait, on n'était pas du tout en situation d'interview, on était vraiment dans une situation de recueil de paroles, à être le plus sensible possible. La personne qui nous aidait à traduire n'arrivait plus à nous traduire, elle pleurait tout le temps. Donc très souvent on a fait ces entretiens qui duraient des heures, parfois ouais. Des jours. Ces femmes, à un moment donné, n'arrivaient plus à parler, étaient en syncope. Enfin, moi, plein de fois, j'ai voulu arrêter ce film. Je trouvais que c'est une responsabilité énorme, en fait, de faire quelque part revivre cette douleur-là, parce qu'elle n'en avait jamais, jamais, jamais parlé. Et on s'était écarté avec le chef opérateur, et elles sont venues nous retrouver. Elles nous ont dit, on veut parler, c'est aujourd'hui ou jamais. On va faire ce film ensemble, et on va faire ce cri, on va pousser ce cri, vous allez nous aider à pousser ce cri ensemble. Voilà. Moi, c'est un film... Enfin, j'y suis encore aussi. Je crois que c'est des paroles dont on... ce courage qu'elles ont eu, ce courage qu'elles ont encore, est admirable.
Et quelle a été votre boussole, pourrait-on dire, pour savoir ce qu'on met dans le film et ce qu'on ne met pas, ce qu'on peut s'autoriser à montrer ou à ne pas montrer? Ça doit être dur.
Alors, c'est effectivement un film uniquement d'entretien. On a rencontré beaucoup, seules 5, on va dire, ont accepté de parler, dont certaines à visage découvert. Elles nomment leur bourreau, elles nomment le nom des prisons. Je crois que pendant le montage, c'était extrêmement douloureux. Moi, on a passé des journées avec le monteur, enfin, on avait les larmes aux yeux. Je pense qu'on s'arrête là où ça devient. L'horreur qu'elles ont vécue, à un moment donné, n'est plus entendable.
Audible, ouais.
Audible, pardon. Et donc, ça devient quelque chose aussi qui est trop par rapport à leur être. Et moi, elles m'ont confié des choses que je ne pouvais pas mettre dans le film. Tout simplement parce que, aussi, j'avais envie qu'on puisse les entendre, qu'elles existent en tant que... Tout l'enjeu du film, c'était des femmes, avant d'être des femmes qui ont été victimes de viol. Voilà, donc ça a été ça. Et ça a été... on a pesé chaque mot. Ça a été un travail minutieux, minutieux au montage. On était avec aidé par des Syriennes ici. Et puis, je crois aussi que le film, on a vraiment essayé que ce soit... qu'il y ait une certaine... aussi que l'image soit poétique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on filmait, c'était qu'est-ce qui pouvait symboliser ce corps morcelé, ce corps qu'on avait anéanti. Et donc, on est allé chercher des images. Je suis allée chercher des images de la terre, de fragments, de fissures, de murs fissurés.
Et ça se finit sur des images comme ça.
Voilà. Hein. Et ça accompagne tout leur témoignage. Et c'était pour rendre aussi, parfois créer un apaisement. Donc c'était et puis il y a cette incroyable artiste Naysam Jalal qui joue de la flûte syrienne, qui est juste magnifique, qui respire quand elle joue. Donc ça a été vraiment quelque chose de voilà, il fallait être à la hauteur de ce qu'elle nous avait confié et en même temps ne jamais aller trop loin.
Et dans cette confiance se joue aussi la question du courage dans le rapport à l'autre. Parce qu'en fait, les philosophes qui se sont intéressés à cette question ont tous dit que la même chose, alors que le courage n'a de sens qu'au présent. C'est-à-dire que dans l'instant du courage, on est courageux, mais quelque part, on n'est pas conscient du risque qu'on prend par rapport à l'avenir. Et c'était un peu comme si vous, vous avez eu cette conscience du rapport au temps qu'elles n'ont pas eu au moment où elles ont parlé dans le présent du courage. Puisque, si j'ai bien compris, vous avez parfois jugé qu'il valait mieux couper certains passages, aussi pour elles, pour qu'elles puissent avoir un avenir.
Bien sûr.
Alors qu'elles, dans l'instant de leur courage, courage donc toujours au présent, comme le dit Yankelevitch, finalement, avaient presque oublié la question de l'avenir.
Oui, je crois qu'elles étaient... elles n'étaient plus là-dedans, elles étaient dans... Enfin, quelqu'un les écoutait. Et enfin, tout ça, tout... cette souffrance qui déchire littéralement leurs entrailles pouvait s'exprimer, pouvait sortir. Donc je crois que c'était, elle n'avait même pas conscience d'avoir autant de courage. Mais c'est sorti comme, encore une fois, un cri. Et elles nous ont fait confiance par rapport à ça pour qu'on restitue ce cri. Et c'est vrai que moi, j'ai dû faire en sorte de les protéger. Il y a eu beaucoup de répercussions après le film. En fait, le pouvoir syrien a complètement déformé le film, s'en est servi pour les menacer. La famille les ont menacés. On a dû les mettre sous protection pendant des mois. Et puis après, passer ces premiers mois en disant qu'elles étaient toutes des comédiennes, que je les avais payées très cher. Enfin voilà, ça devenait un peu hors de contrôle pendant plusieurs mois. Et puis après, elles ont reçu des centaines et des centaines de témoignages d'hommes syriens, d'ailleurs, qui venaient leur demander pardon. Et puis l'une d'entre elles, Mariam, on a lancé avec France 2 un Kiss Kiss Bang Bang. On a eu de l'argent pour qu'elle crée une école, parce qu'elle enseignait avant. Donc elle a créé une école pour des petites filles dans les camps qui ont été mariées de force dans les camps en Turquie. Donc il y a eu cette possibilité de résilience aussi, mais ça a été très très long.
C'était David Bowie, Heroes évidemment.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Manon Loiseau, réalisatrice de documentaires, journaliste, grand reporter comme on dit aussi, et nous parlons du courage, nous cherchons l'essence du courage. On a écouté, avant d'écouter David Bowie, un extrait de votre reportage « Le cri étouffé » sur les femmes violées dans les prisons syriennes et sur le viol presque automatique, méthodique, comme crime de masse. Et on a bien entendu aussi que la question du courage se pose dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, on n'est pas courageux tout seul. Il y a aussi la question de la responsabilité qui s'est posée. Vous nous avez raconté, par exemple, que peut-être c'était parfois à vous d'avoir une responsabilité à leur égard qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est important, parce que ce serait trop facile si on était tout seul. Et finalement, c'est le débat qui oppose Platon à Aristote. Lorsque Platon dit « il y a une essence du courage », ça veut dire en gros, il y a une idée dans le ciel des idées, une vérité ou un principe. Donc voilà, si je suis courageux, je peux être tout seul, j'ai vu l'essence du courage dans n'importe quelle situation. Enfin, je me réfère à l'essence du courage, c'est ça l'idéalisme platonicien. Et vous, je vous pose pas la question parce que je sais que vous êtes du côté d'Aristote, enfin je m'en doute, mais on va en parler. Pour Aristote, objecte à Platon son maître, mais non, ça, le courage, comme toutes les vertus, c'est pas un absolu, il n'y a pas d'essence au sens de principe simple, c'est toujours dans un tâtonnement. C'est, en l'occurrence, précise Aristote, c'est un juste milieu entre deux excès, la témérité et la lâcheté. Ça, j'imagine que vous l'avez souvent vécu, concrètement.
À chaque fois, je crois. À chaque film, chaque reportage. Évidemment que le courage, c'est avec les autres. Parfois, on m'a dit « Ah, mais t'es courageuse ». Non, je me sens pas du tout courageuse. J'y vais par passion, j'y vais par envie de faire témoigner les gens dans ces pays fermés, et faire sortir ces voix oubliées. Mais ceux qui me donnent du courage, ce sont les gens sur place. Et en même temps, eux, ils sont rarement seuls dans leur combat ou en se dressant comme contre des régimes qui sont quand même extrêmement impitoyables. Ouais. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec Aristote. Il y a pas de, c'est un entre-deux. J'ai très souvent pensé, c'était un de mes premiers reportages en Tchétchénie, et on essayait de faire sortir ses voix. Et puis un Tchétchène est venu vers moi et m'a dit « Mais vous, journaliste, vous arrivez, vous prenez nos paroles et puis vous repartez. Mais nous, on reste. Et vous arrivez ici comme dans un zoo, et vous vous regardez et puis vous repartez. » Et j'étais jeune journaliste, je commençais, et j'ai toujours gardé en mémoire ça, parce qu'effectivement, eux, ils restent. Et voilà, encore une fois, ce sont eux qui ont le courage. Nous, on fait notre métier.
C'est un problème, c'est ce qui a été reproché aussi au grand photographe Sebastião Salgado, par des peuples indigènes, et puis aussi par des occidentaux. À savoir, non seulement vous faites de la beauté avec de l'horreur, mais après vous partez. Oui. Sauf que lui, comme vous, vous restez quand même beaucoup là-bas. Des mois, oui. Lui aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Donc c'est un reproche qui est un peu illégitime de ce point de vue-là.
Alors moi j'ai choisi le documentaire parce que justement j'avais commencé en... comme on dit en news, j'ai vécu 10 ans à Moscou, oui. Correspondant du Nouvel Observateur, je faisais un peu des piches pour Le Monde et je travaillais pour Canal+. Et... j'ai couvert la deuxième guerre de Tchétchénie. Et à un moment donné, il fallait franchir une frontière tous les jours, donc passer de l'Ingouchie à la Tchétchénie et repartir. Et ce côté, on a 2 heures pour recueillir un maximum de témoignages d'horreur et repartir. C'est-à-dire que c'est Nicolas Bouvier qui parle de ça, mais c'est de l'attachement et l'arrachement. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de m'attacher et de rester. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement le news et j'ai besoin de m'attarder, j'ai besoin d'arriver sans caméra, j'ai besoin de pouvoir, alors en ce moment c'est difficile, mais de toucher les mains, de pouvoir, d'être dans un, de donner finalement de moi quelque part, pas prendre une parole, mais la restituer. Et j'ai besoin de passer, longtemps et d'être avec ces êtres de courage, oui. Et après l'esthétisation, quand on filme des conflits, on se pose forcément à un moment donné la question de est-ce qu'on montre des cadavres, est-ce qu'on montre l'horreur. Moi, je l'ai jamais montré en fait. Ouais. Il y a eu des évocations, il y a des, je trouve que des merveilleux chefs opérateurs qui arrivent à on sait ce qu'il se passe derrière ou à côté, mais montrer en gros plan un cadavre ou voilà, je peux pas. Par contre, je pense que l'évocation et les paroles sont parfois plus fortes qu'une image qui va faire un mouvement de recul chez le spectateur. Oui, il y a quelque chose de, on sait, on veut pas voir. Ou finalement, là, en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est toutes les révolutions filmées. Tout est filmé en Syrie, hein, quand même. Tout est filmé. Moi, quand je filmais en Tchétchénie, personne, il n'y avait pas du tout cet accès-là avec les téléphones portables et la retransmission comme ça, direct sur les réseaux sociaux. On sait tout. On voit tout. Mais quelque part, ça a créé une indifférence face à l'horreur qu'on voit. Et donc, je crois que les mots, Et la parole dite et le récit de du vécu est souvent plus forte que
c'est un peu le même principe que Shoah.
Et pourtant, je fais de la télévision. Donc...
c'est un peu le même principe que dans Shoah de Lanzmann. Finalement, ça va rester parce que c'est pas montré et parce qu'il y a une mise en scène autour du fait qu'on le montre pas. D'ailleurs, quand ces gens vous ont dit, enfin, on les comprend bien sûr d'où ils parlent. Nous, on va rester et toi, tu vas partir. On peut aussi répondre que vous allez faire aussi que ça reste, puisque ils vont être oubliés, par exemple, s'ils meurent, ou même s'ils ne meurent pas, s'ils disparaissent, par exemple, ou alors s'ils tombent dans l'indifférence. Et le fait que vous rentriez à Paris pour faire votre montage, ça va faire qu'ils vont justement rester. Parce qu'il me semble que c'est aussi votre combat, la mémoire.
Tout à fait. C'est complètement mon combat. C'est difficile. Tchétchénie, ça a été plus de 20 ans d'exaction. Je crois que la première guerre, la deuxième guerre, il y a beaucoup de Tchétchènes qui ont cru en l'Occident, qui ont cru en l'Europe, qui ont cru aussi en la France avec ce qu'elle représentait, patrie des droits des humains, des droits de l'homme, mais qui, face à l'horreur au quotidien et finalement l'arrêt du conflit mais des exactions, des tortures, des les achiskas, ce qu'ils appelaient les nettoyages, les rafles, ne croyaient plus en ça, ne croyaient donc préférer se taire. Mais j'en ai quand même trouvé à chaque fois qui acceptait, qui me faisait confiance et qui se disait ben moi j'arrive toujours en disant je promets rien. Enfin, en fait votre parole ne va pas faire changer la politique de nos gouvernements, mais si on porte pas cette voix, ce que vous vivez, personne n'en saura jamais rien. Donc peut-être qu'on peut essayer ensemble d'un tout petit peu bouger les lignes, en tout cas faire parvenir ces voix.
On va justement écouter un extrait de votre documentaire « Tchétchénie, une guerre sans trace » de 2014.
J'aimerais que la terre s'ouvre sous mes pieds. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut être courageux. Tu penses que je n'ai pas envie de pleurer ? Personne ne viendra nous aider. J'ai envie de hurler. Mais c'est inutile. Ce qui nous arrive est arrivé à d'autres. Ils ont tout détruit. Dieu les jugera pour ça. Ils paieront cher pour avoir laissé ces enfants orphelins. Ils paieront pour ce cauchemar qu'ils nous font vivre.
Ouf. Oui.
Dans votre travail, vous ne promettez pas du changement. On va voir après qu'il y a quand même eu parfois des changements grâce à vos documentaires, notamment votre premier film sur les enfants handicapés a produit des décisions politiques intéressantes, on va en parler après. Mais avant ça, il y a déjà quelque chose dans ce souci de laisser une trace. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez votre métier si vous deviez trancher? Qu'est-ce que vous faites d'abord? Qu'est-ce que vous faites surtout? Est-ce que c'est de permettre une mémoire?
Mais je crois que oui. Je crois qu'effectivement, laisser une trace de tous ces gens, de tous ces êtres incroyables et merveilleux que j'ai rencontrés à travers les conflits, que ce soit en Tchétchénie, en Syrie, au Yémen, en Iran, en Biélorussie. Aujourd'hui, je pense particulièrement à Aless Bialitsky, qui dirige l'ONG Vesna, qui lutte justement pour la mémoire, contre les crimes non seulement du régime de Loukachenko, mais du régime stalinien, et qui était l'un des derniers à ne pas avoir été arrêté, parce que cette vague de répression dure depuis un an maintenant. Et il a été arrêté le 14 juillet. C'était le personnage principal du dernier film que j'ai fait en Biélorussie il y a 2 ans. Et Et toute son ONG, Vesna, tout a été réduit à néant. Tout le monde a été emprisonné. Les derniers journalistes indépendants aussi ont été emprisonnés. Il y a eu une vague totale la semaine dernière. Donc. Et Aleš Białicki a reçu le prix Václav Havel. C'est quelqu'un d'incroyable. Moi, c'est une des rencontres les plus fortes que j'ai faites. Et qui est un homme qui lutte depuis ses 18 ans pour les droits humains. Parce qu'il croit aussi au devoir de mémoire, à l'essence, il croit qu'il ne faut pas laisser les crimes impunis. Donc oui, je vais souvent chercher ça, laisser une trace, comme ces mères en Tchétchénie qui 20 ans après continuent à essayer d'aller retrouver les corps de leurs enfants et qui se disent que si elles font pas ça, plus personne après elles le fera. Donc elles ont aussi très souvent leur ONG est fermée, elles n'ont aucun moyen, mais elles, tant qu'elles sont en vie, elles résistent pour que les crimes soient connus et que les corps soient retrouvés.
Ouais, ce sont des scènes vraiment déchirantes, bouleversantes de votre documentaire sur la Tchétchénie. On est dans le cœur du sujet parce qu'en fait, notamment une scène dont je me souviens, il y a comme un champ. Enfin, c'est un champ avec des herbes, des fleurs. Et donc, ça a l'air un peu normal. Et elles expliquent, elles sont 3-4 femmes à repérer les endroits dans ce champ où il y a presque des tombes, mais des tombes non manifestes, des tombes implicites, quoi. Et on comprend que beaucoup de gens sont morts et enterrés dessous, mais que personne ne le dit, qu'il y a un projet comme ça politique d'éradication de la mémoire, de lavage de cerveau, et que donc on souffre avec elles, parce qu'on voit que c'est pas gagné, quoi. Elles sont combattantes. Il y a des associations, je crois, pour essayer d'enquêter sur le passé, essayer de se souvenir, et puis donc vous, c'est ce que vos images disent. Mais c'est vrai que on a l'impression que la lutte contre l'oubli n'est pas gagnée, quoi.
Elle marche sur les corps, là. Il n'y a plus rien, là, en Tchétchénie. Mémorial, qui lutte justement sur la mémoire des crimes, a été anéantie. Natalia Estimerova, qui dirigeait, a été assassinée il y a plusieurs années, mais celles qui continuent ne peuvent plus travailler. L'ONG qu'on filmait aussi. Ce qui est terrifiant en Tchétchénie, c'est le projet d'effacement de la mémoire. Ouais. C'est un projet d'effacement de la mémoire.
Projet politique, bien sûr.
Politique. C'est-à-dire que c'est non seulement l'effacement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vraiment aller pleurer ses morts pendant la guerre, parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Ouais. Donc, il y a quand même un cinquième de la population tchétchène qui est morte. Les avenues principales, c'est l'avenue Poutine, ou c'est l'avenue des généraux qui ont été responsables de massacres. Des milliers de Tchétchènes, des dizaines de milliers de Tchétchènes vont manifester pour l'anniversaire de Vladimir Poutine sur l'avenue Poutine. Et on a acheté l'effacement de cette mémoire par beaucoup d'argent. La jeunesse est prise en charge dans des jeunesses poutiniennes ou pro-Kadyrov. On lui donne des iPads, des téléphones, etc. Et puis elle oublie. Et ça, c'est vraiment un projet qui est vertigineux. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré quand même des gens que j'avais filmés, pas forcément qui résistaient, mais qui résistaient à leur manière. C'est-à-dire qui, par exemple, continuaient à exercer dans la maternité de Grozny pour que les enfants naissent. Enfin, il y avait ces résistances au quotidien. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont reclus chez eux et se disent, mais de toute façon, il n'y a plus personne nous entend, donc ils ont accepté, ils sont dans le silence, et cette mémoire est progressivement effacée, non seulement des crimes de l'armée russe et puis des crimes de Kadyrov dont on ne parle pas, mais aussi de la déportation du peuple tchétchène par Staline. C'est-à-dire qu'on n'en parle
Kadyrov
pas.
Kadyrov si lui-même, d'ailleurs, a oublié que dans sa famille.
Que sa famille avait été déportée. Donc c'est complètement schizophrénique. Et c'est vrai que ceux qui étaient en résistance, et même j'ai revu d'anciens combattants que j'avais rencontrés pendant la Deuxième Guerre, aujourd'hui, ne souhaitent plus me voir, parce que quelque part aussi je leur rappelle ce qu'ils ont été, donc ils n'ont pas envie de se souvenir qu'à un moment donné ils ont été quand même en lutte contre l'oppression de l'armée russe, mais beaucoup d'entre eux aussi ont été, gagnent aujourd'hui beaucoup d'argent et sont dans les milices de Kadyrov, et quelque part c'est terrible parce qu'il a eux-mêmes avaient été victimes des tortures de l'armée russe et aujourd'hui torturent ceux qui résistent. Donc on est dans quelque chose d'absolument effrayant. Et c'est vrai, voilà, d'arriver comme ça dans un pays où l'effacement de la mémoire est en marche et a quasiment été achevé, j'ai rarement vécu quelque chose comme ça.
On va écouter un autre morceau de musique, mais avant cela, je voudrais quand même préciser, parce que c'est important de le dire, que parfois vos films produisent des véritables conséquences, et c'était le cas, ça arrivait plusieurs fois, mais il y a le cas intéressant, au tout début, je crois, votre premier documentaire, Grandir sous Clémisole, un documentaire sur la manière dont on laisse mourir en fait les enfants handicapés, et bien lorsque Boris Letchine l'a vu, et bien il a changé la loi qui forçait les parents d'enfants handicapés à les abandonner à l'État. Donc là, clairement, des vies et de nombreuses vies ont été sauvées.
C'était une histoire assez incroyable. Moi, à l'époque, je voulais être écrivain voyageur, je travaillais en presse écrite et je pensais que la télévision, c'était trop agressif, l'arrivée avec une caméra. Et puis, c'était l'agence CAPA, à l'époque, qui m'a proposé de faire mon premier reportage, j'avais 24 ou 25 ans, pour Envoyé spécial. Et j'ai passé plusieurs mois déguisée en infirmière dans un de ces mouroirs, parce que tous les enfants handicapés étaient cachés. C'était dans la société de l'avenir radieux, il n'y avait pas de place pour le handicap. Et la chute de l'URSS, en fait, les gens qui travaillaient là-bas, donc ceux concrètement, parce que ça n'existait pas, sont partis. Donc les enfants sont restés là et c'était devenu des mouroirs. Et finalement, donc on a filmé et quand le film finalement a été, des extraits ont été montrés en Russie. Boris Yeltsin a demandé à le voir et il a regardé avec sa femme et il a fait changer la loi. Donc aujourd'hui, les parents d'enfants handicapés ne sont plus obligés de l'abandonner à l'État, parce qu'à l'époque, jusqu'à il y a 17 ans, 18 ans, les parents dès qu'une maman accouchait d'un enfant handicapé, il était obligé de l'abandonner à l'État. Et non seulement ça, la personne qui nous a aidés, qui nous a ouvert, qui résistait contre ça, parce qu'il avait une petite fille handicapée, Sergei Koloskov, qu'il a pas voulu abandonner, et il luttait contre le système. Lui, maintenant, il conseille le ministère de l'Éducation pour des livres, pour aider les parents à s'occuper des enfants handicapés. Donc, effectivement, là, ça a été mon premier reportage de télévision. Après, je me suis dit, peut-être que c'est pas mal, en fait. Avec l'image, on peut faire un petit peu, un peu bouger les lignes.
Ouais, je vous propose d'écouter votre sœur, Émilie Loiseau.
Le compte à rebours a commencé. Le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds? Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passerelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire, devant lui se tient un miroir. Son reflet de bain ne sais plus dire si tu dors. Ta vie est devenue un décor que tu laisses comme on offre son corps pour quelques billets et encore. Mais c'est toi qui portes le drapeau. Regarde-le comme il est beau. Là, tout en tête du cortège, qui se soulève. Tu portes pour lui la mémoire du temps où les oiseaux chantaient le soir. Relève-toi, c'est la tempête. La, 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 la. La voix de cette terre mère qui nous regardera passer à peine le temps d'un baiser. Elle parle, il faut juste se pencher, percer l'asphalte, le béton armé et renverser la pyramide. mettre la base en premier et renverser la pyramide, à mettre la base en premier.
C'était Émilie Loiseau, votre sœur, Manon Loiseau, et son album est dans la playlist de France Inter actuellement. C'était le titre Renversé.
Et il est magnifique. Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Alors justement, c'est votre sœur qui fait la musique du film que vous êtes en train de tourner. Depuis plus d'un an, vous suivez une famille afghane qui est arrivée en Grèce, puis qui est maintenant en Allemagne. Et vous suivez plus précisément, je crois, donc il y a 5 enfants, les deux parents, la fille de 14 ans qui, elle aussi, veut faire des films.
Alors, c'est une rencontre assez incroyable. C'est-à-dire que j'ai passé un an à préparer un film sur les enfants qui étaient sur les îles grecques abandonnées un peu de tous. Et puis, le camp de Moria, il y a presque un an maintenant, en septembre dernier, a entièrement brûlé. Et j'avais rencontrée par une amie, j'avais été mise en contact avec une jeune fille qui filmait le quotidien là-bas, qui avait 14 ans, qui s'appelle Elae. Et j'ai convaincu mes productrices qu'il fallait repartir, parce que moi, au bout d'un an, j'avais donc plus de films. Oui. Et j'ai rencontré Elae sur les Centres de Lesbos. Elae et sa famille, ils ont quitté Kaboul il y a 3 ans maintenant. Et, ils ont fui. Ils ont vraiment fui, en fait, pour que les filles apprennent. Ils ont fui pour l'école. Ils ont fui pour que leurs filles puissent lire, écrire, être des filles, être des femmes indépendantes. Et la maman travaillait dans un salon de beauté, et elle a été qui était souvent la cible des talibans. Et les 3 petites filles, donc qui, quand elles ont quitté Kaboul, avaient 6 ans, 9 ans et 12 ans, il y a eu plusieurs attentats de talibans dans l'école.
Vous voulez dire que leur départ remonte à plus de 2 ans, c'est ça?
Presque 3 maintenant.
3 ans.
Donc c'est 3 ans d'errance avec 5 enfants. Dont un tout petit de 2 ans, ils sont passés du Pakistan à l'Iran, ils ont été attaqués par Daesh, ils sont tombés dans les montagnes, ils sont arrivés en Turquie, ils ont essayé 7 fois de traverser jusqu'à Lesbos, et 7 fois les Turcs sont venus et ont percé leur bateau avec des lames, aucun d'entre eux ne savait nager. Et en même temps, cette famille a une espèce de foi absolue en son rêve, qui est que leurs enfants puissent aller à l'école.
En France, par exemple?
En France, alors ça s'est longtemps posé, la France, l'Allemagne, donc on est toujours dans le questionnement. Donc ils ont vécu presque un an à Moria, et Moria, c'était quand même l'enfer, c'est-à-dire que c'était 25 000 êtres humains parqués comme ça. Donc, il y avait un camp qui, pour une capacité de 3 000, et ils étaient 25 000. Et Elae, ce qui est incroyable, c'est qu'elle filme, et elle a filmé. Non pas, on disait tous, c'est l'enfer sur Terre, Moria, etc. Elle a filmé la vie, elle a filmé la joie, elle a filmé un lâcher de cerf-volant comme il faisait à Kaboul. Elle a filmé aussi l'école, parce que son père était charpentier, ils ont bâti une école comme ça au milieu de la jungle à Moria. Ouais. 600 enfants sont venus, elle s'est mise à enseigner. Et à chaque fois qu'ils arrivent, donc ils ont ensuite quitté Lesbos, on filme, on y va à des moments précis. Et on fait le film un peu à deux, c'est-à-dire que je fais le film sur elle, mais elle filme, plus elle a un regard... de cinéaste, en fait, vraiment, elle est en train de se révéler sur la route, et c'est vraiment un journal intime de l'enfance et qui raconte au quotidien qu'est-ce que c'est grandir sur la route, et comment aussi les parents, c'est très universel, c'est une adolescente, donc elle se fait des amis dans chaque endroit où elle est mise pour quelques semaines, et après, c'est encore, on revient à Bouvier, mais c'est l'attachement et l'arrachement, elle dit mais je veux plus me faire d'amis, parce qu'à chaque fois, on s'arrache, je ne les retrouve plus, donc elle dit je préfère être seule, ses parents qui se posent en permanence la question de est-ce qu'ils ont fait le bon choix. Mais il y a énormément d'espoir et lumière, et cette foi absolue qu'ils iront, que leur rêve va arriver, qu'ils arriveront à ce que leur fille puisse étudier. Et c'est vrai qu'avec ce qui arrive en ce moment en Afghanistan, où maintenant les talibans détiennent près de 80% du territoire, où il y a eu 80 petites filles qui sont mortes dans un attentat il y a quelques semaines. On filme l'intimité de cette famille, et là, il nous raconte avec ses yeux, à sa hauteur, avec sa petite caméra, ce que c'est grandir sur la route.
Et vous la filmez en train de raconter avec sa caméra?
Alors nous, on se place d'un point de vue justement plus cinématographique, ouais, où on va faire des images, donc avec Thibaut de la Vigne, qui est un merveilleux chef opérateur, qui filme, c'est des images extrêmement travaillées, posées, et on la montre elle, avec sa famille. Et elle, sinon, elle est... Alors, en plus, on a quand même filmé depuis septembre, on a pu y aller 7-8 fois, mais il y a quand même eu des vagues de confinement et des impossibilités d'accéder au territoire, mais on a dépassé cet obstacle, parce que c'est Elaé filme, donc elle filme, mais maintenant elle filme elle filme aussi presque des natures mortes et elle parle derrière et c'est en train de vraiment, je lui demandais à un moment donné, elle fait des selfies aussi, où elle raconte comment elle se sent chaque jour, et puis elle me dit, mais tu sais, moi je n'aime pas le selfie parce que moi j'ai besoin de m'exprimer par le cadre. Voilà, à 14 ans.
Ça va s'appeler comment ?
Alors, sans doute comme un oiseau sur un fil, petit hommage à Leonard Cohen,
ouais. Ou
like
alors,
a bird on the wire, ou alors In Her Eyes, ou alors Elaé. On n'est pas encore sûr, mais on sera en montage jusqu'en décembre, donc, et on n'a pas encore tout terminé, parce qu'on va...
Ça me faisait un peu penser, enfin, proportion gardée, je sais bien qu'il y a un déplacement, hein, mais quand même, quand vous racontiez cette adolescente de 14 ans... Ah oui, c'est peut-être pour le cinéma aussi, non ?
On aimerait bien.
Et quand vous racontiez cette adolescente de 14 ans qui est au cœur d'un camp de 25 000 personnes pour une capacité de 3 000 et qui trouve la beauté et la joie, il y a quelque chose d'Eti Ilsoum un petit peu. Mm. Vous voyez cette mystique juive qui a tenu son journal magnifique, Une vie bouleversée, dans un camp de tri, en fait, avant d'arriver à Auschwitz où elle est morte. Et puisqu'on est en plein été et que vous êtes sur la plage, je vous recommande Une vie bouleversée de Eti Ilsoum, le livre le plus fou qui soit dans la mystique, dans cette façon au fond par laquelle la joie persévère bien souvent jusqu'au cœur de ce qui est sombre. Mmh. Je voudrais qu'on arrive maintenant à une dernière question, c'est le rapport entre le courage de celles et ceux que vous filmez dans des situations extrêmes. Notre courage à nous tous dans nos petites affaires d'occidentaux privilégiés. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a aucun rapport entre les deux ? Par exemple, parfois il faut du courage pour changer de job. Il faut du courage pour oser quitter quelqu'un qu'on n'aime plus alors que voilà. Et est-ce que c'est du même ordre finalement que le courage de ces femmes violées qui un jour réussissent à parler, que le courage de ces combattants syriens qui s'unissent ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une essence commune malgré les différences ou alors c'est de deux ordres différents ?
Je pense qu'il y a sans doute une essence commune. Je pense notamment aux femmes qui ont le courage de parler, qui ont été victimes de viols. Je pense à toutes ces violences et au fait qu'on est quand même à un moment clé où quelque part les chaînes se brisent. Et ce courage-là, moi, quand j'ai entendu les premiers témoignages et que voilà, j'étais en train de filmer les femmes syriennes. Et il y a quand même quelque chose de commun dans ce courage, à un moment donné, d'arrêter le silence, en fait, d'arrêter le silence de la douleur. Voilà. Après, quelque part, je crois aussi, dans ce monde très, je trouve plus en plus noir et blanc et binaire. Le courage de la nuance.
Oui.
Je trouve que c'est important, le courage de la nuance. Je cherche aussi ça, je pense. En tout cas, moi, les victimes, pas que les victimes d'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose de commun à un moment donné, de dépasser quelque chose.
Vous arrivez, j'ai une intuition de la réponse en discutant avec vous, mais je suis pas sûr en fait. Est-ce que vous réussissez à garder une légèreté en faisant ce métier, ou est-ce que parfois vous vous rendez compte quand même que une forme de lucidité, le fait d'avoir touché comme ça de si près des scènes de dévastation, finalement vous prive d'une légèreté dont vous pourriez par exemple profiter dans votre maison de l'Île-Dieu.
Je crois que la légèreté, elle est essentielle. Sinon, je ne survivrai pas. Voilà, j'adore danser, je danse sur les tables. Je suis connue pour ça. Non, je crois qu'en tout cas, moi, quand je rentre... Ce qui est difficile, effectivement, c'est d'avoir vécu ces moments incroyables avec des gens qui vous donnent tout, de repartir sans savoir si on les reverra un jour et si on les reverra en vie. Donc, il y a forcément un décalage quand on rentre. Mais après, il y a la vie, et je crois que je suis quelqu'un qui aime profondément la vie. Mais comme tous ces gens que je filme, ils aiment profondément la vie, vraiment. Et aussi, ont des moments de légèreté. Et quand on filme, c'est pas parce qu'il y a tous ces récits, il y a des moments de joie, de vie, de chant, de danse, de partage, de fou rire. Voilà. Donc je pense que c'est la légèreté, elle est importante.
Vous connaissez la bande dessinée de Catherine Meurice qui porte le titre La légèreté ?
Non.
Ben ça parle exactement de ça. Elle est rescapée de l'assassinat de Charlie Hebdo et elle raconte qu'après après un moment de sidération, elle arrive à retrouver comme ça grâce à la création, grâce au travail, grâce à l'expérience esthétique, quelque chose comme la légèreté. J'en viens d'ailleurs à ma dernière question, logiquement. Quelle est, Manon Loiseau, votre dernière émotion esthétique ?
Ça, c'est une bonne question. Je suis allée voir l'exposition de Sarah Moon.
Ouais.
Et j'ai été complètement bouleversée par la poésie en fait de ces photos, la poésie de ces textes, de ces films.
C'était où ?
C'était au Musée d'Art Moderne. Voilà. Je crois que malheureusement elle est terminée, mais c'était une expérience vraiment unique. Je connaissais son travail, mais là, la manière dont était agencée l'exposition, il y avait c'était très poétique. Il y avait ces textes, il y avait ces photos, des petits films, et c'était j'arrivais pas à partir. Et j'ai été très émue par cette exposition.
Merci beaucoup Manon Loiseau, merci de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre et aussi cette philosophie du courage. Finalement, il me semble qu'on a commencé par être aristotélicien, mais qu'on a fini un peu platonicien quand même. Et puis bon, comme on est sous le soleil de Platon, on ne va pas se priver. Parce que quand vous avez dit qu'il y a quelque chose de commun entre le courage que peut avoir une femme dont la parole se libère ici en France et le courage des femmes syriennes, ça rappelle d'ailleurs aussi votre premier, un de vos films il y a longtemps, La malédiction de naître fille. Mm-hmm. Quand vous avez parlé d'un invariant comme ça dans cette libération de la parole des femmes, eh bien vous avez été un peu platonicienne. Mais bon, oublions ce débat. Platon-Aristote, il y a autre chose aussi dans votre philosophie de la vie, une philosophie évidemment du témoignage, une philosophie de la trace. Vous avez envie que ne soient pas oubliés les uns et les autres, et pas simplement ceux qui ont été courageux, ceux qui ont tout simplement été humains, qui se sont battus. Et même parfois, quand leur courage leur a manqué, eh bien vous leur permettez d'exister et qu'on ne les oublie pas, que l'on se souvienne. Et quand des régimes politiques orchestrent l'éradication de la mémoire, eh bien vous arrivez avec votre caméra pour essayer de rétablir un peu de lumière sur ce qui a été. Manon Loiseau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et nous attendons avec impatience ce très beau documentaire sur Elaë, cette jeune cinéaste
merveilleuse
qui découvre, qui apprend à voir au cœur du camp la beauté et la promesse d'un avenir.
Merci un peu de beaucoup. Lumière dans cette période un peu complexe.
Merci Madame Loiseau.
Merci.
Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Benjamin Troncin, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins dans la caverne de France Inter à 10h exactement sous le soleil de Platon.